Merci d'écouter RFI, 19h30 ici à Paris, 18h30 à Dakar et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est parti pour 30 minutes consacrées à l'actualité sur le continent. La première édition d'Afrique Soir de ce mardi vous est présentée par Victor Moria. Bonsoir Victor.
Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à toutes et à tous. J-5 avant les élections législatives sénégalaises, la tension n'en finit pas de monter après l'appel à la vengeance prononcé par le Premier ministre Ousmane Sonko. La principale coalition d'opposition s'insurge, la société civile et les autres partis s'inquiètent des conséquences de ces prises de position. Pas de libération provisoire au Mali pour les 11 cadres politiques signataires de la déclaration du 31 mars. La cour d'appel a rejeté la demande de leurs avocats dans l'attente de leur procès. Afrique Soir et l'embargo sur les diamants centrafricains pourraient être levés à l'issue du processus de Kimberley actuellement en cours à Dubaï. Et enfin le dossier de cette édition, après la victoire écrasante de son parti aux législatives, le nouveau Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam, officiellement nommé en attendant la passation de pouvoir, retour sur cette secousse politique dans ce journal avec le journaliste mauricien Yvan Martial. Un Premier ministre n'aurait peut-être pas dû dire ça. La polémique au Sénégal à 5 jours des élections législatives, les déclarations d'Ousmane Sonko appelant à ses partisans à se venger des agressions menées selon lui par des opposants en campagne. Une déclaration qui ravive le spectre des violences électorales après les dizaines de morts lors des manifestations avant la présidentielle. À Dakar, notre envoyée spéciale permanente, Léa Lisa Westerhoff.
Dans cette publication, Ousmane Sonko va même jusqu'à réclamer que le maire de Dakar, à la tête de la coalition Sam Sakadou, soit interdit de faire campagne. Selon le Premier ministre candidat à ces législatives, la coalition de l'opposition s'est rendue responsable dans plusieurs villes du pays d'agressions de militants de son parti, le PASTEF. Il appelle donc ses partisans à répondre au nom d'un droit légitime, je cite, à la riposte. Une déclaration qui a fait bondir l'opposition, mais pas seulement. Dans les rangs de la société civile et du parti au pouvoir, nombreux sont ceux qui appellent le Premier ministre à revenir à la raison. Ces déclarations d'Ousmane Sonko révèlent en tout cas la violence qui sous-tend la campagne. Après ce nouvel accrochage hier entre militants du PASTEF et militants de la coalition de Barthélemy Diaz à Saint-Louis, dans le nord du pays, selon plusieurs témoins, des membres de la caravane de Sam Sakadou auraient blessé des sympathisants du PASTEF à coups de couteau. À la mi-journée, le gouverneur de Saint-Louis annonçait en tout cas l'interpellation de 81 personnes, tout en invitant les acteurs politiques une nouvelle fois à bannir la violence. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et de son côté, Samou Sakadou dénonce un appel au meurtre lancé par le Premier ministre. C'est une tentative de museler la démocratie et d'installer un climat de terreur, écrit la coalition d'opposition sur les réseaux sociaux. Samou Sakadou tiendra Ousmane Sonko pour responsable de ce qui pourrait arriver à ses partisans, explique-t-elle. Et dans ce contexte d'escalade de tensions entre le PASTEF et Samou Sakadou, le leader de la coalition, Jamak Najrine, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, appelle à la retenue. Écoutez, il s'exprimait depuis Matam dans l'est du pays.
Ces derniers jours, nous avons malheureusement été témoins de cette inacceptable violence physique comme verbale qui n'augure rien de bon pour notre cher pays. Ce n'est ni la voie de l'unité, ni celle du progrès, encore moins celle de la paix et de la cohésion. Dès lors, je condamne vigoureusement toute forme de violence et invite solennellement les autorités, le président de la République en premier, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les citoyens, sans distinction aucune, et de leurs biens. Je lance enfin un appel pressant au calme et à la retenue, à l'attention de tous les acteurs politiques. Il est de notre responsabilité individuelle et collective de nous respecter, de défendre nos idées avec élégance, dans la pluralité, et de bannir à jamais les affrontements physiques dans l'espace politique. Les Sénégalais qui traversent des moments difficiles, avec la conjoncture actuelle, attendent des solutions concrètes à leurs problèmes que des discours va-t-en-guerre des protagonistes aux conséquences incalculables.
Amadou Ba, leader de la coalition Jamak Najrine, des propos recueillis par notre correspondant Gwendal Lavina. La cour d'appel a tranché, pas de libération provisoire pour les 11 de la déclaration du 31 mars. Les 11, ce sont des anciens ministres et dirigeants maliens engagés pour le retour à l'ordre constitutionnel. On le rappelle, le Mali est dirigé par des militaires depuis le coup d'état de 2021. Ces 11 cadres politiques sont donc poursuivis pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Arrêtés en juin, le juge d'instruction avait demandé leur libération en septembre en attendant leur procès. Mais ce matin, la cour d'appel a rejeté toutes les demandes, suivant l'avis du procureur. heure. L'un des avocats des 11 accusés, maître Ibrahim Marouf Sacco, exprime son incompréhension.
Je suis stupéfait par cette décision de la Cour d'appel. On n'a pas encore la motivation de la chambre d'accusation. Mais je vois mal comment la chambre d'accusation va motiver ce refus de mise en liberté par rapport à ces messieurs-là, qui sont d'un certain âge, qui sont des chefs de partis politiques, qui ont des domiciles connus.
Il y aurait eu des moyens de s'assurer qu'ils ne fuient pas, qu'ils ne cherchent pas à échapper à la justice?
Bien sûr, leur mise en liberté et les placer sous contrôle judiciaire. Ça aurait pu calmer l'atmosphère, parce qu'encore une fois, tout le monde connaît les faits. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de tenir une réunion privée dans un domicile privé. L'essence d'une décision de justice, c'est d'être juste. Cette décision n'est non seulement pas juste, mais elle est juridiquement attaquable. On ne peut pas la comprendre. Des chefs de partis politiques d'un certain âge qui n'ont pas fait des manifestations, qui n'ont pas posé des barricades, qui ne troublent en rien l'ordre public, comment on va motiver leur maintien en détention?
L'avocat Ibrahim Marouf Sacco au micro de David Baché. Pas de passe-droit pour les candidats du pouvoir au Tchad. À 7 semaines des élections locales et législatives, au moins 6 candidatures du MPS, le parti de l'ancien président Idriss Déby, aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur Mahamat Idriss Déby, ont été rejetés par l'agence chargée d'organiser les scrutins. Selon les lettres de rejet consultées par RFI, dont l'ange a confirmé l'authenticité, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zenbada, fait partie des déboutés. Sollicité par RFI, le porte-parole du parti, Issa Dobragne, indique que le MPS procède actuellement à un travail de vérification et qu'il se tiendra aux côtés des candidats non retenus pour d'éventuels recours. Fin de citation. Une interdiction de longue date pourrait être levée, celle sur les diamants en Centrafrique. L'embargo avait été mis en place en 2013, en pleine crise politico-militaire, car le commerce de ces pierres précieuses était soupçonné d'alimenter le financement de groupes armés. 11 ans plus tard, et alors que les sanctions ont été allégées au fil des années, le processus de Kimberley, l'organisme de régulation du commerce mondial de diamants, se réunit en ce moment à Dubaï et pourrait lever définitivement l'embargo. Charlotte Cosset.
Cette sanction n'a plus lieu d'être, déclarait le ministre des Mines dans une communication en septembre dernier à l'occasion d'une mission d'examen du processus de Kimberley. Celle-ci s'est rendue dans plusieurs villes minières du pays et notamment en zone rouge à Bria, à l'est. Les autorités estiment que le retour à l'ordre constitutionnel et, je cite, « le contrôle total du territoire » doivent permettre la levée totale des restrictions. En juillet dernier, un expert indépendant des Nations Unies notait cependant la persistance des attaques de groupes armés dans certaines zones, notamment minières et frontalières. En 2015, une levée partielle de l'embargo a permis la reprise des exportations de diamants bruts en provenance de 8 zones situées dans l'ouest du pays. En 2019, un allègement des procédures a également été accordé. L'année dernière, la Centrafrique a exporté près de 110 000 carats de diamants bruts pour une valeur estimée à 12 millions de dollars. Or, avant la crise, ces diamants représentaient près de 40% des recettes d'exportation du pays. La levée totale de l'embargo serait une aubaine pour les finances de l'État.
Charlotte Cosset du service économie de RFI. Compter parmi ceux qui comptent, faire de l'Afrique un centre économique mondial, c'est l'ambition du forum économique Makutano qui s'ouvre demain à Kinshasa en RDC. Pour sa 10e édition, le forum accueille plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques, dont des membres de gouvernement. Le président Tshisekedi est d'ailleurs attendu pour la journée d'ouverture mercredi. Cette année, la thématique, c'est The New Deal, comprendre, faire bouger les lignes. Yves Kabongo est homme d'affaires congolais, il participe au forum.
On ne veut plus être un centre de négoce comme ça l'a été pendant la période de l'esclavage et la période de la colonisation. Nous voulons faire partie des créateurs de richesses d'un côté et puis nous voulons faire partie du club pour pouvoir détenir une certaine richesse partagée et apporter notre contribution au niveau international, mais que l'Afrique puisse compter vraiment parmi les structures d'investissement, les structures de création de valeur, les structures de transformation en somme. C'est un énorme défi en regardant Nous venons quand même de 400 ans d'esclavage et d'un siècle de colonisation. Donc il faut transformer un peu l'état d'esprit des Africains qui, à un moment donné, nous nous étions emprisonnés conceptuellement dans la dimension « on ne peut que recevoir ». Nous nous mettons en position de commencer aussi à donner. Et pour cela, il faut une réflexion qui soit bien aiguisée, une réflexion qui soit bien dotée pour pouvoir donner pas seulement aux entrepreneurs aujourd'hui, mais aux entrepreneurs d'avenir, des voisins, et moyens de pouvoir participer au développement économique non seulement du pays, mais de la sous-région et du continent en entièreté.
L'homme d'affaires congolais Yves Kabongo au micro de Paulina Zidi.
Port-Louis,
93.2 FM.
Pravin Jugnauth a démissionné, Navin Ramgoolam est désormais le nouveau Premier ministre mauricien après une victoire écrasante aux législatives, 60 sièges à zéro. Ce vétéran de la politique de 77 ans s'apprête à retrouver un poste qu'il avait laissé en 2014. Il doit désormais former son gouvernement. C'est le dossier d'Afrique Soir qui commence avec le papier de notre correspondant à Port-Louis, Abdoulaye Rally.
La tradition démocratique a été respectée avec célérité. 24 heures après sa cuisante défaite, Pravin Jugnauth a présenté sa démission au président de la République de Maurice, autorité symbolique du système démocratique du pays. L'ex-premier ministre a réuni son dernier conseil des ministres dans la discrétion avant de quitter ses fonctions. Des proches de Pravin Jugnauth commencent également à démissionner, notamment le commissaire de police soupçonné d'avoir étouffé des enquêtes et harcelé l'opposition. Entre-temps, Navin Ramgoolam, auteur d'une victoire écrasante de 60-0 à la tête de l'Alliance du Changement, s'apprête à faire son grand retour au pouvoir après 3 mandats par le passé. Ce retour est pour lui une revanche historique car il intervient après 10 années difficiles marquées par une interdiction de voyager et 11 poursuites dans divers dossiers dont 10 ont été abandonnés. Le nouveau Premier ministre prépare maintenant la formation de son gouvernement et un meeting de remerciement pour ses partisans devant l'hôtel du gouvernement dans la capitale. Abdoulaye Erali, Port-Louis, RFI.
Et pour revenir sur cette victoire totale d'Alliance pour le Changement, on écoute Yvan Martial, journaliste mauricien, au micro de Nicolas Sûr. Il explique que l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth a été victime d'une forme de lassitude et d'usure du pouvoir.
Certes, pendant ces 10 ans que son parti était au pouvoir, il a quand même réalisé plein de choses en faveur de la population. Mais vous savez, autour du pouvoir, il y a des choses qui se passent, qui déplaisent et qui fait qu'il y a une sorte d'accumulation de frustration. Et finalement, l'électorat souhaite à un certain moment un changement de régime en espérant que ça remettra les choses un peu au clair.
Il y a eu notamment un scandale pendant la campagne, celui des écoutes téléphoniques de personnalités qui ont fuité. La réponse des autorités a été de couper les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, ça a été déterminant dans le vote des Mauriciens?
Ça a été un coup brutal qui a vraiment causé un choc, d'autant plus que la censure devait aller jusqu'à là. Après les élections, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a dû avoir des réactions, surtout du milieu des affaires, parce que toute l'économie était paralysée, qui fait que le gouvernement a eu à reculer, et ça fait créer un mauvais effet.
La campagne de Pravin Jugnauth aurait pourtant bien pu commencer. Il y avait eu quelques semaines avant les élections l'annonce de l'accord avec le Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel des Chagos. Pourquoi finalement ça n'aura pas suffi pour les électeurs mauriciens?
Alors le gouvernement sortant a voulu appâter l'électorat en faisant miroiter que cet accord allait nous rapporter des milliards de dollars chaque année. Mais comme dit le proverbe mauricien, ne vendons pas l'œuf qui est encore dans le ventre de la poule. Il faut que cet accord soit ratifié par le Parlement britannique, ce qui est loin d'être acquis. Il faut que les États-Unis ratifient cet accord. Avec Trump, ça devient encore plus difficile.
La participation à ces législatives tournerait autour de 80%. On a un Premier ministre qui a reconnu sa défaite immédiatement. Ça veut tout de même dire que la démocratie mauricienne reste en grande forme, quoi qu'on en dise.
Oui, sauf que ces élections absolument libres et indépendantes nous donnent une fois de plus un Parlement sans opposition. Ça fait la 5e fois depuis l'indépendance que cette situation se présente à Maurice. Et il y a un dicton à Maurice qui disait toujours, il y a un bon Dieu pour l'île Maurice. Eh bien, je demande à bon Dieu là de ne pas s'endormir et de continuer à veiller le peuple mauricien.
Le journaliste mauricien Yvan Martial, ancien rédacteur en chef du quotidien L'Express, il était l'invité de Nicolas Sûr, c'était bien sûr dans Afrique Midi. La COP29 à Bakou s'est ouverte hier en Azerbaïdjan. Peu de chefs d'État et de gouvernement sont présents cette année, mais la ligne des pays du Sud est toujours la même. Les pays riches doivent payer pour les conséquences du changement climatique. Des négociations difficiles, bien sûr, mais qui doivent être menées au nom de la justice climatique. C'est ce qu'estime Fornia Simbe, le président togolais.
Les promesses climatiques non tenues ne suffisent plus. Chaque année, l'urgence s'accentue. Chaque année, l'inaction nous rapproche des points de non-retour. Il est temps que nos actions reflètent l'ampleur de l'urgence. Il faut une véritable justice climatique, c'est-à-dire une responsabilité partagée mais différenciée entre les pays. L'Afrique paie le prix fort de la crise climatique. Nous contribuons peu aux émissions globales, mais nous en subissons néanmoins les impacts les plus sévères. Ce sont nos écosystèmes, notre sécurité alimentaire et nos économies qui sont en première ligne de cette crise. Notre besoin de justice climatique ne peut plus être ignoré. Elle demande à ce que des fonds de soutien conséquents soient déployés pour protéger nos populations et notre biodiversité. Elle exige aussi que les grands émetteurs reconnaissent enfin explicitement ce principe de justice climatique dans les accords internationaux.
Et c'est avec Fornia Simbé, le président togolais, que se termine ce journal à 19h45 ici à Paris, toujours une heure de moins en temps universel. C'est la fin de ce journal. Restez bien avec nous car Afrique Soir continue sur RFI.
Afrique Soir sur RFI. Victor Moria.
Avec à suivre le deuxième épisode de notre série sur le journalisme d'investigation, le travail d'équipe est en question avec Claire Bargelès depuis Johannesburg. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'Hervé Mandina, DJ Facemaker, nous présentera son agenda musical. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Victor, bonsoir à tous.
Avec quoi allez-vous nous faire danser ce soir?
Ce soir, la RDC, la Guyane, le Niger, l'Inde et le Nigeria sont au programme.
Et on vous retrouve avec plaisir donc dans moins de 10 minutes. La suite de notre série sur le journalisme d'investigation sur le continent africain à l'occasion de la conférence annuelle sur le sujet tenue cette année à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Une série réalisée par notre correspondante dans le pays, Claire Bargelès. Hier, Claire nous parlait du rôle de l'intelligence artificielle, un épisode que vous pouvez retrouver sur notre application Pure Radio. Aujourd'hui, focus sur la mutualisation du travail d'enquête. Du fait de la complexité de ce travail dans un monde globalisé, de la diminution des ressources des rédactions, travailler en équipe est devenu de plus en plus courant sur le continent.
Pour comprendre les crimes transnationaux et leur complexité, difficile de travailler tout seul de son côté. Maria Matiam, journaliste sénégalaise, en est témoin.
L'expérience que moi j'ai eue, c'est une collaboration transnationale concernant le trafic de bois de rose au Sénégal, en Gambie, en Chine et en Suisse. Et donc ça permet vraiment de faire un travail plus complet et de pouvoir justement suivre le dossier au-delà de son pays. Si je devais faire ce travail en Gambie, ça allait être compliqué pour moi parce que je n'ai pas forcément les bons contacts. Quand on parle de contacts, c'est aussi la confiance qui est établie entre le journaliste et la source. Et justement, la collaboration permet d'arriver à tout ça.
On the 22nd of May, a series of major news stories broke across West Africa.
La plus grosse enquête à laquelle Emmanuel Dogbevi est participé est aussi un projet de collaboration. En 2018, 13 professionnels de différents pays du continent ont eu accès aux bases de données du Consortium international des journalistes d'investigation. En s'associant avec la CENOSO, la cellule Norbert Zongo, ils ont dévoilé différents cas de malversation et de blanchiment d'argent dans la région, connue sous le nom de West Africa Leaks. Pour Emmanuel Dogbevi, la portée du projet n'aurait pas été la même s'il avait simplement travaillé sur son pays, le Ghana.
Quand on travaille ensemble, en groupe, et qu'on publie une enquête commune sur le même thème, mais avec des angles et des sujets différents, cela aura potentiellement plus de poids et notre voix porte mieux car on est nombreux.
Mais très souvent, les projets de collaboration viennent des pays occidentaux qui possèdent plus de ressources en termes de données, d'expertise et surtout d'argent. Maxime Domény est en charge de la zone francophone du continent pour le GIJN, le réseau international des journalistes d'investigation.
Vu que les ressources sont limitées dans la région, il se trouve qu'en général, pour les grands projets collaboratifs qui existent, les ressources viennent des médias qui sont au nord. Mais encore une fois, il y a quelques projets qui sont là. Ou bien parfois, ce n'est pas forcément des enquêtes qui vont demander de gros moyens. Il y a des petites enquêtes comme ça qui se font pour lesquelles les journalistes collaborent. C'est vrai que ce n'est pas encore au niveau où on souhaiterait voir cette collaboration, mais ce n'est pas rien, il y a des choses qui se font et qui progressent sur le terrain.
Travailler en groupe offre aussi plus de protection avec des journalistes qui se retrouvent moins isolés face aux menaces et aux tentatives pour les faire taire sur le continent. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Cette série, vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site www.rfi.fr, rubrique Reportage Afrique. Fidèle au poste, fidèle à sa chronique culture, bien sûr, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, notre ambianceur international. Bonsoir Hervé.
Rebonsoir Victor, bonsoir à tous.
La fin de l'année approche et vous nous avez déniché pour nous des sorties afro-urbaines qu'il faut écouter absolument en 2024, à commencer par la chanteuse congolaise Sarah Koulamé, qui sortira un EP le 29 novembre prochain.
Oui, exactement, c'est Sarah Koulamé qui a dévoilé la chanson Nakupenda, le premier extrait de son EP sobrement intitulé Sarah Koulamé, à paraître le 29 novembre prochain. Nakupenda est une fusion de sonorités congolaises et de rythmes afro-modernes chantés en lingala et en français, à l'image des titres que l'on retrouvera dans son projet qui parlera principalement d'amour.
Tu me fais perdre la tête dans mes pensées, y'a que toi. Je n'en peux plus. Ce qui m'ont aimé boni, c'est pas un coup d'hasard. T'es quelqu'un de très spécial, mais sois mon île. Bébé n'a coupé n'a, y'en denga na linga. Osala mes côtés pour toujours. Je serai prête à mourir for you, babe. Yonde ngana linga, osala mes côtés pour toujours. Yes, je l'aime et love you. Baby, si tu doutes, sache que moi je t'aime pour tes vrais. Hey, hey. Je suis peut-être pas la première personne.
Sarah Koulamé, bien sûr, du Congo Kinshasa, place désormais à la chanteuse, compositrice et romancière guyanaise, Saina Manot.
Oui, Saina Manot qui enfile donc sa casquette de chanteuse pour le titre Respectez Mo, un morceau d'à peine 1 minute et 48 secondes qui est extrait de son EP Baté, un projet que la Guyanaise a voulu très visuel. Alors, il faut préciser que ce n'est que la première partie de ce projet. En attendant le deuxième volet, voici Respectez Mo, donc, dans lequel vous allez reconnaître le sample d'une chanson de Coolio. Je vous laisse deviner laquelle.
Pas ton plan B, je suis pas ta route secours. Fille à pas couillon, j'ai vu ton jeu en plein jour. Moi s'il m'a pas vu ni qu'il vient de moi, j'y respecte tes mots. Faut pas les web, pas fait semblant, pas invité. Ni y'a t'es pas invité. Moi s'il m'a pas vu ni qu'il vient de moi, j'y respecte tes mots. Respecte moi, je sais qui je suis, ce que je fais, ce que je vaux. Et tu sais ce que je vaux et quel est mon niveau. Mais tu filles gentil, tu t'es dit ça passe crème. Problème, s'il te plaît, ouais, oh, oh, pas fait semblant, pas invité, moi, ni y'a tout pas invité, moi, moi, s'il m'a pas vu, ni qu'il finit de magie, respect. Toujours savais, la Guyane m'a sorti, oh, mais pas bien temps pour pédier. Toujours savais, à bout de chambé, tout cas, oh, tout pas que, ouais, moi, continuez, fais son âme.
Et ça fait plaisir d'entendre ce sample de Coolio Gangsta's Paradise.
Eh oui, vous avez l'oreille, mon cher Victor.
Saina Manot, respectez mots sur RFI. Direction maintenant Niamey, au Niger, où le rappeur Barakina cartonne avec sa chanson Go Go Go.
Oui, le fils du fleuve Niger, Barakina Bawan Ala, tout simplement appelé Barakina, donc, a convié ses compatriotes du groupe MDM à le rejoindre sur le titre Go Go Go, qui a très rapidement été plébiscité par le public et salué par la critique. Entre rap, Touareg, rythme traditionnel du Sahel et sonorité afro-pop, tous les ingrédients sont réunis pour que Go 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 décroche le titre de la chanson de l'année au Niger.
Go Go Go, mon ami, faut Go Go Go, y'a plus le temps de do do do, never give up, il faut Go Go Go. Go Go Go, kasuba kasoro dama yangi daje komo tochi, karkadamu, irkwe no gano. Kasu wanti ye wiya ba abunda zaka ke gida karkadamu irkwe no gano ai wata yo akwa wiya gata se do bunkunci karkadamu irkwe no gano roge me sama ya ba mu abunda za mu sha dadi karkadamu.
Go, 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 Barakina. Pour conclure votre chronique culture, Hervé, On termine avec un duo surprenant entre la star indienne de la chanson Kanika Kapoor et le chanteur nigérian Timmy Boy.
Oui, Kanika Kapoor qui est au sommet de son art en tant qu'artiste, fashionista ou entrepreneuse avec son propre label Bajao. Elle a décidé d'aller à la conquête du continent africain en s'entourant de la nouvelle scène afrobeat, d'où la collaboration audacieuse avec le nigérian Timmy Boy. Ça donne le titre Matak Matak, un mélange harmonieux de l'afropop et du punjabi indien qui fait déjà des vagues sur les réseaux sociaux. On écoute. Et c'est avec ce titre afro-hindou, Kanika Kapoor, que s'achève votre chronique. Hervé Mandina, DJ Facemaker, merci beaucoup. Une sélection bientôt disponible sur le site RFI Musique. Oui, ça se passe sur musique.rfi.fr. Vous cherchez bien l'Afro Club ou sinon jetez un œil sur les réseaux sociaux de la Radio du Monde. Et à présent, je laisse nos auditeurs entre les mains expertes de vous, mon cher Victor Moria, pour découvrir le reste de notre programme.
Merci beaucoup Hervé Mandina, 19h56 ici à Paris, 18h56 temps universel, dans un quart d'heure, 19h10, la vie des Européens, accent d'Europe. Ce soir, reportage au Portugal sur la lutte contre la pauvreté infantile, une pauvreté qui augmente dans beaucoup de pays riches comme le Royaume-Uni, la France ou la Norvège. 69 millions de pauvres au sein de l'OCDE et de l'Union Européenne. À Vila Nova de Gaia, dans le nord du Portugal, la ville et les associations se mobilisent. Elles s'occupent des enfants mais aussi des familles pour les aider à briser le cercle de la répétition des situations d'échec. C'est ce qu'explique Johanna Vieira, directrice de l'organisme d'aide sociale IDIS.
La politique familiale joue un grand rôle. Par exemple, nous versons de l'argent aux familles pour encourager la fréquentation scolaire. Car bien sûr, c'est une pauvreté liée à la pauvreté de la famille. Lorsqu'une famille ne sait pas bien gérer, les enfants sont pauvres. Et bien souvent, malheureusement, nous n'arrivons pas à casser la transmission de certains de ces modèles familiaux. Nous n'avons pas encore réussi à émanciper ces personnes.
La suite du reportage de Marilyn Darcy à retrouver dans Accent d'Europe, 19h10, temps universel. 30 minutes plus tard, 19h40, le grand reportage, c'est en Corée du Sud, auprès des Chinois d'origine coréenne, une communauté tout à fait particulière dans le pays. Bien que Chinois sur leur passeport, on les catégorise globalement comme ethniquement coréens. Ils sont pourtant marginalisés dans une société qui met l'accent sur l'homogénéité. Jugés non suffisamment coréens pour être intégrés, ils ont une image de criminels et sont relayés au métier difficile et ingrat. Écoutez le témoignage de cette mère de famille.
Le plus difficile, c'est la discrimination. Même si nous contribuons beaucoup à la société, il y a encore des préjugés. Parfois, cela affecte nos enfants. Mais j'ai pris la décision de rester ici pour leur assurer un avenir plus stable. Je suis naturalisée depuis 2 ans. J'avais pensé rentrer en Chine, mais finalement, la Corée m'est plus familière. Notamment parce que mon grand-père était coréen.
Corée du Sud, cette communauté pas assez coréenne pour être intégrée. Un grand reportage de Célio Fioretti, 19h40, temps universel. À 20h10, couleur tropicale, Claudie Ciard vous propose ce soir une émission consacrée aux nouveautés et découvertes, parmi lesquelles ce titre de H Magnum, intitulé Spécial.
Dans un Skoda, j'suis dans l'hélico de Kobe. Soudain les jaloux sont cordants. Nos cœurs sont blancs comme Kodak. M'aimerais-tu dans un Skoda, j'suis dans l'hélico de Kobe. Soudain les jaloux sont cordants.
Spécial H Magnum, 20h10, temps universel sur le plateau de couleur tropicale. C'est ainsi que se termine cette première édition d'Afrique Soir. Merci à Jonathan Bretti, Laurent Chaffard, Cécile Périllard d'avoir aidé à la participation, à la préparation de cette émission. Dans un instant, retour de l'information sur la Radio du Monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
Demain,
prévention et prise en charge de la pneumonie pour protéger les enfants.
Jeudi,
journée mondiale du diabète, mieux lutter contre cette épidémie mondiale.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
L'Afroclub, c'est le terrain des musiques modernes d'Afrique et de sa diaspora, avec d'abord une sélection des derniers sons de la nouvelle scène. Des artistes locaux aux stars internationales, vibrés au rythme des musiques urbaines. Et dans notre rubrique Actu, ne manquez rien de ce qui fait bouger les arts et la culture sur le continent.
Chaque jeudi, retrouvez l'Afroclub et faites le tour des tendances musicales afro-urbaines avec musique.rfi.fr.